France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une coproduction des médias francophones publics. Aïe.
New York, La Havane, Rio de Janeiro, la musique et le monde. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans notre chère Havane, notre carrefour des Amériques. La Havane, qui disait-on, était déjà une fête dans les années 40, une fête qui résonnait jusqu'à New York. Nombreux sont les musiciens cubains et latino-américains qui ont rejoint la scène new-yorkaise. Les plus célèbres, avec Miguelito Valdés, sont Machito et le trompettiste Mario Bausa. Ils ont introduit dans leur orchestre The Afro-Cubans des improvisations de jazz qui vont influencer de grands jazzmen tels que Dizzy Gillespie et Charlie Parker. En avril 1943, en tant que citoyen américain, Machito est appelé sous les drapeaux. Il fait ses classes, durant lesquelles il est grièvement blessé. Il faut alors trouver une autre voix pour l'orchestre. Mario Bausa appelle alors la sœur de Machito, Graciela, qui chantait à l'époque à La Havane avec l'orchestre féminin Ana Caona. Elle débarque à New York et devient la chanteuse des Afro-Cubans, Graciela et Machito. Feront une brillante carrière aux États-Unis et les radios à Cuba transmettront régulièrement leurs concerts. Les Cubains n'ont jamais oublié l'humour canaille de Graciela et comment, en deux mots, elle savait raconter l'amour sans dessus-dessous.
Sirve pa' gozar. Sabroso, no, 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 no.
I know you do.
Sí, sí. No, no.
Bien,
ay, pero con lo que tengo. No, 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 y no, 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 y no, no.
Mm.
Sí, no, sí. Ay, no, 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 no.
Marrón.
Ay, sí. Ay, anda que quiero morir.
Vaya.
Que lo último no sirve para gozar sabroso. Ay, no me digas que no, porque me da eso. No, no, sí, aquí mismo me da. Ay, pero ¿qué es lo que tengo en la chichi? Ay, mi chichi. Sí, está frozen. No, 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 no. Ay, ay, sí, sí, así, así. Así, así. Así, así, así. No. Ay, anda. Sí, que mi cerebro es lo último así. Ay, pero qué.
Le public, vous l'avez entendu, s'amuse comme un fou. On ne peut pas résister au charme de Graciela. C'était déjà un cha-cha-cha que son premier succès très coquin que nous entendions. Graciela qui nous a quittés à Manhattan en avril 2010. Elle avait 94 ans. La Havane, en ses années 40 et 50, est politiquement et culturellement la capitale des Caraïbes. Elle accueille beaucoup de réfugiés politiques latino-américains et tous sont frappés par la vitalité ambiante et la démocratie qui y règne. On disait qu'à cette époque, la Havane, c'était une vraie fête, comme Paris dans les années 20 et 30, avec une presse très libre. Le journal de la Marine, par exemple, très conservateur, polémiquait régulièrement avec le journal Hoy, aujourd'hui, tellement plus progressiste. Et sur le beau paseo du Prado, on croisait tous les grands artistes populaires cubains et aussi les écrivains, comme Lessa Malima qui venait prendre le frais avec des amis dans le parc central. C'est un extrait de son roman « Paradiso ». Ce jour-là, il se réveilla de sa sieste et il eut envie de sortir pour faire un tour dans les librairies des rues Obispo et Oreilly. Ce sont les rues qu'il aimait le plus. En fait, elles ne forment qu'une seule et même rue. L'une conduit à la baie et l'autre entre en ville. Par une de ces rues, on suit la lumière jusqu'à la mer. Au retour, comme si la lumière se prolongeait, on va de la clarté de la baie au mystère de la moelle de Sureau. Il poursuivait alors sa promenade, place de la cathédrale, place de San Francisco, jusqu'à l'embarcadère pour le fort de la Cabaña, le quartier de Casablanca ou celui de Regla. Un extrait de la première symphonie du compositeur cubain Alfredo Díez Nieto. Il avait 22 ans quand il l'a composée. Elle était interprétée ici par l'Orchestre symphonique national de Cuba, dirigé par Iván del Prado. Díez Nieto était né en 1918. Après avoir étudié à la Havane, il était parti à New York, à la Juilliard School. Alfredo Díez Nieto à Cuba a toujours refusé de s'intégrer à un groupe quelconque. Il est resté farouchement et courageusement indépendant. À 99 ans, il est aujourd'hui le doyen des compositeurs cubains. Alors nous tous, en Belgique, au Canada, en Suisse et en France, nous avons envie, Alfredo, de vous souhaiter un bon anniversaire en espérant que ce message vous parviendra à la Havane. Les années 40 marque un progrès dans l'éducation à Cuba durant le gouvernement de Batista, qui avait chargé son ministre communiste Juan Marinello de réformer l'enseignement de l'histoire dans les écoles, un peu sur le modèle brésilien. Il est urgent, disait Marinello, d'enseigner l'histoire autrement qu'à travers le prisme de la population blanche hispanique, en faisant valoir la grande diversité de la culture cubaine avec toute sa palette de couleurs. Et Batista était aux anges, n'oublions pas qu'il était lui-même métis et qu'il a été le premier président de couleur de Cuba. Et bien justement à cette époque, le compositeur populaire qui était lui aussi métis, Orlando de la Rosa, commence à se faire connaître. Né en 1919, au sein d'une famille très humble, il a à peine 20 ans quand il compose son premier boléro. En 1943, son grand succès, c'est Nuestras Vidas, Nos Vies, qu'il mêle bientôt à un nouveau boléro en une sorte de contre-chant, et c'est un beau tour de force de la part d'un autodidacte comme lui. Nuestras Vidas était alors un des grands succès des chanteurs de feeling, notamment au grand cabaret Le Scheherazade à la Havane. On écoute l'orchestre América, digne héritier des anciens orchestres de Don Sones.
Nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se han perdido como la mañana, se pierde la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran. Fue el destino que envolvió en sus sombras nuestro gran amor. Nuestras vidas que quizás un día valieron un poco, hoy no valen, no digo yo poco, siquiera
para ti.
Ya es muy tarde para arrepentirnos. Son cosas que pasan
en su ansiedad.
Nuestras vidas no se comprendieron. Ya no hay más que hablar.
Tristeza de mi noche gris.
Hoy no vale,
no
digo yo.
Corazón,
ni siquiera
te vio partir.
Ya es muy tarde para
mi corazón.
Son
que
cosas que
para
pasan
ti en su ansiedad.
No es
te dice así,
no
porque no vienes
ya no hay
junto a mí.
Voilà comment les musiciens populaires se lançaient quelquefois des défis en mêlant plusieurs boléros qu'ils avaient composés. L'Amérique latine, dans ces années 40, tourne de plus en plus les yeux vers la Havane. Le Brésil, notamment. Le Brésil a gardé un lien fort avec Cuba depuis les premiers concerts de la pianiste Guiomar Novaes dans les années 20. En 1943, c'est le grand pianiste brésilien Arnaldo Estrela qui donne un récital au théâtre Auditorium. Une découverte pour les mélomanes cubains, d'autant plus qu'en dehors des œuvres du grand répertoire, il interprète des œuvres brésiliennes, comme « A Certa Neige », une musique du sertão, les plaines de l'intérieur du Brésil. Cette danse, Certa Neige, est une des premières œuvres d'inspiration vraiment brésilienne, composée en 1869 par Brasílio Itiberé da Cunha.
Thank you.
Arnaldo Estrella, dans A Sertaneja, du compositeur brésilien Brasílio Itiberé da Cunha. La Havane, quant à elle, fidèle à son histoire, se laisse porter, bien sûr, par tous les vents du monde. La société Pro Arte Musical a de nouveau invité de prestigieux artistes pour sa saison de récital, dont Yehudi Menuhin et Robert Casadesus, qui sont revenus à la Havane. Et cette année-là, les Wagneriens cubains sont aux anges. Ils s'arrachent les places pour les récitals de Hélène Traubel et de Lauritz Melchior. Hélène Traubel chante le 2 janvier 1942, juste avant de retourner à New York pour répéter sa première Brunhilde dans le Crépuscule des dieux de Wagner au Metropolitan Opera, où elle fait un triomphe le 12 février. À la Havane, elle chante le rêve d'Elsa de Lohengrin, des leaders de Beethoven, de Richard Strauss et des chants américains. Le 16 mars, c'est son partenaire favori, le ténor Lauritz Melchior, qui est à son tour à la Havane. Il était lui aussi dans la troupe du Metropolitan Opera et il venait de faire des triomphes à Buenos Aires, à San Francisco et à Chicago. À la Havane, il chante des chants norvégiens et finlandais, du Schubert et, bien sûr, Wagner, dont l'air de Siegmund au premier acte de la Valkyrie. On écoute Hélène Traubel et Lauritz Melchior réunis dans un extrait de l'acte 1 de la Valkyrie de Wagner. L'orchestre de la NBC est dirigé par Arturo Toscanini.
Der Lenz auf linden Lüften leid und lieblich wunderweben der sich biegt durch Wald und Wald weht sein Atem weit geöffnet lacht sein Auge O Silberwöglein fahre süßer Tön holde Düfte Warmen Blut, emblühe wonnige Blumen, Keim und Sprost entspringt seine Kraft. Mit zarter Waffenzier bezwingt er die Welt, Winter und Sturm bieten der starken Wehr, und musste den tapferen Streichen die strenge Tür aufweichen, die trotzig und starr uns trennte von ihm.
Helen Traubel et Lauritz Melchior, dirigés par Arturo Toscanini à New York. Le 20 juin 1942, le compositeur cubain José Ardévol, qui enseigne au conservatoire, organise dans la salle du Lycéum de La Havane une audition des œuvres de ses meilleurs élèves. Et c'est un succès inattendu. Les élèves se réunissent alors autour de leur maître et décident de redonner un nouvel élan à la composition musicale à Cuba, en fondant un groupe qu'ils vont appeler le groupe de rénovation musicale. La doyenne, c'est Gisela Hernandez, elle a 30 ans. Il y a aussi Edgardo Martín, qui a 27 ans, Harold Gramaches et Hilario González, 22 ans, et le gamin, c'est Julian Orbon, il a 17 ans. Hilario González a déjà quelques œuvres à son répertoire. En fait, il composera assez peu. Il sera surtout un très bon pédagogue. Voici son prélude en conga de carnaval, numéro 2, interprété par Víctor Díaz Hurtado. La doyenne du groupe de rénovation musicale, Gisela Hernandez, est à l'époque chef de plusieurs chœurs à La Havane. Elle commence à composer sa série de leaders pour chant et piano, dont certains sont orchestrés. Ces deux premiers leaders ont été écrits sur des poèmes de Mirta Aguirre, grande poétesse cubaine, amie du ministre Marinello. Le premier de ces poèmes s'intitule curieusement « Lead ». Et en le mettant en musique, Gisela Hernandez renoue avec la tradition du lied cubain qui a été initié au XIXe siècle, comme cette Unica Mar que chante Yolanda Fernandez. Mer joyeuse, mer verte, mer obscure, mer de bronze, mer traîtresse, mer unique, farouche et douce, que ta main, mon ami, m'entraîne toujours vers la mer.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Alors que le chef d'orchestre autrichien Erich Kleiber arrive à La Havane en 1943 pour prendre en charge la direction de l'orchestre philharmonique, il découvre, étonné, l'amour inconditionnel que les Cubains portent à la zarzuela espagnole, mais aussi à l'opérette viennoise, en particulier à la Veuve joyeuse de Franz Lehár, qui ne quitte pratiquement jamais l'affiche. En cette année 1943, c'est la jeune soprano cubaine Maruja González qui brûle les planches au théâtre de la Comédie dans le rôle de la milliardaire Anna Glavary. Comme il est question dans La Veuve joyeuse, La Viuda Alegre en espagnol, d'un éventail qui cause bien des quiproquos, cet éventail à La Havane a bien sûr un charme latin supplémentaire, puisque La Veuve joyeuse se chante en espagnol. On est au théâtre de la Comédia de La Havane le 7 octobre 1943. C'est l'air d'entrée d'Anna Glavary et c'est Maruja González qui entre en scène, éblouissante de beauté tropicale à la manière d'une Maria Félix ou d'une Rita Hayworth. La Viuda Alegre, la veuve joyeuse de Franz Lehár, enregistrée à La Havane par la soprano Maruja González. L'orchestre et le chœur étaient placés sous la direction de Gonzalo Roig. Ce même mois d'octobre 1943, Ernesto Lecuona est aux États-Unis pour la commémoration à New York du jour de l'indépendance de Cuba. C'est en effet le 10 octobre 1868 que le planteur Manuel de Céspedes, qui venait de libérer ses esclaves, avait appelé les Cubains à lutter pour leur indépendance et c'est ainsi que les combats avaient commencé. À New York, le compositeur Gonzalo Roig a accompagné Lecuona pour l'assister à la direction des orchestres. Le 10 octobre, tous deux dirigent un concert de musique cubaine au Carnegie Hall. Ce soir-là, Ernesto Lecuona a créé sa Rapsodia Negra, sa Rapsodie Noire, pour piano et orchestre, avec en soliste la pianiste cubaine Carmelina Delphine, à qui l'œuvre est dédiée. On dit que ce fut la première audition de musique entièrement cubaine au Carnegie Hall. Dans cette Rapsodie, Lecuona cite plusieurs mélodies de ses zarzuelas, mais surtout le thème du cœur des esclaves de la zarzuela El Cafetal, la plantation de café, qui parcourt toute la rhapsodie.
Thank you.
Le soir de la création à New York de la Rhapsodie noire de Lecuona, le critique de Newsweek est ravi. C'est du cubain gershwinesque, parcouru de crissements, de battements de tambours, et on y racle même, et c'est surprenant, une mâchoire d'âne. En fait, Lecuona et Gonzalo Roig avaient mêlé à l'orchestre classique des musiciens venus de la Havane avec leurs percussions cubaines, notamment le guiro, la calebasse fendillée, et aussi la quijada, une mâchoire d'animal dont on racle les dents avec une baguette pour marquer le rythme. En Louisiane, on appelle ça « the jawbone ». La Rhapsodie noire de Lecuona s'achève dans une atmosphère sereine, souvent mélancolique et nostalgique, avec le thème nocturne de l'intermède de la zarzuela, la plantation de café. Thomas Tirino piano, l'orchestre symphonique de la radio polonaise dirigé par Michael Bartos, dans la Rhapsodie noire, la Rhapsodia Negra de Ernesto Lecuona, qui avait obtenu un énorme succès en octobre 1943 au Carnegie Hall de New York. Cette même année, meurt à la Havane un musicien qui a été une vraie légende de la musique populaire cubaine, Don Aspiasu. C'est lui qui avait fait connaître dans le monde entier El Manicero, le vendeur de cacahuètes de Moïse Simons, avec Antonio Machin. On l'a un peu trop vite oublié. En 1932, quand son orchestre joue au Théâtre de l'Empire à deux pas de l'Étoile, puis à la plantation de Colombie sur les Champs-Élysées, tous les Parisiens se mettent à danser la rumba. Il rentre à Cuba, fait un aller-retour à New York en 1937, son orchestre joue au Rainbow Room. Trois ans après, il enregistre de nouveau à Manhattan, mais la scène musicale latino-américaine a trop changé là-bas pour lui. De retour à Cuba, il quitte définitivement le métier et meurt d'une attaque cardiaque en 1943 dans un grand isolement. Son fils, Raoul, considérait qu'il avait toujours été en avance sur son temps. Il avait dès le départ imaginé, disait-il, une fusion entre la musique latine et la musique nord-américaine. Il raconte comment son père traduisait en espagnol les chants des Noirs dans les plantations de coton et comment il les faisait interpréter par ses chanteurs cubains avec son orchestre, et combien il aimait inviter des Nord-Américains pour chanter de la musique cubaine, comme George Owen, enregistré ici à La Havane avec Don Aspiasu et son Havana Casino Orchestra, dans un air de la zarzuela El Cafetal, justement, la plantation de café de Lecuona, et cette fois en anglais. Un air de zarzuela cubaine chanté en anglais pour se quitter aujourd'hui, avant bien sûr de se retrouver dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Bernard Laniel, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.